Pourquoi Afrique ? Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 18 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Le gouvernement appelé en RDC a enquêté sur l'implication de certaines autorités dans les violences au Kasaï.
Au Cameroun, un mort hier dans des affrontements à Bamenda, chef-lieu du nord-ouest anglophone.
En Guinée équatoriale, appel à la démission du gouvernement hier en plein dialogue national à Malabo.
Profonde inquiétude de l'ONU quant aux violences dans la région de Mopti, dans le centre du Mali.
Ici à Washington, le président Donald Trump dit avoir commis un lapsus lors de sa conférence de presse lundi à Helsinki.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le groupe d'études sur le Congo invite le gouvernement de Kinshasa à enquêter sur l'implication de certaines autorités congolaises dans le soutien aux milices qui ont ensanglanté la région du Kasaï en 2016-2017, selon un rapport. Jacques Aristide.
Le GEC de l'Université de New York écrit que la réponse militaire du gouvernement a aggravé le conflit qui a fait plus de 3000 morts. La région du Kasaï a basculé dans la violence en août 2016, après la mort du chef traditionnel Kamuina Nsapu, tué par l'armée après s'être ouvertement opposé au pouvoir de Kinshasa. Le groupe d'études note que l'incertitude générée par la bataille pour la succession du président Joseph Kabila a contribué à cette dynamique. D'après le rapport, le conflit a vu de nombreux politiciens, dont Évariste Boshab, Hubert Bingo, Maker Mwangu et Alex Kandé, manœuvrer pour des positions d'intermédiation entre conflits locaux et pouvoir politique national. Les quatre hommes sont membres de la majorité présidentielle. Pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, c'est à la justice et non au gouvernement qu'il revient de poursuivre les infractions, à moins qu'il y ait eu une réforme accordant au gouvernement des compétences judiciaires, dit-il.
RDC toujours, une association des pêcheurs congolais a accusé hier la marine ougandaise d'avoir interdit la recherche des corps de 16 de ses membres disparus depuis 10 jours dans le lac Édouard. C'était en marge d'incidents qui ont opposé les forces de sécurité de la République démocratique du Congo à celles de l'Ouganda. Une réunion entre des représentants des deux pays est prévue ce mercredi à Kasese en Ouganda, en vue de la libération de 92 pêcheurs détenus dans des prisons ougandaises, de la démarcation de la frontière lacustre et pour mettre fin aux tensions, selon une source gouvernementale congolaise. Depuis le 7 juillet, des tensions sur le lac Édouard ont fait au moins 14 morts congolais et ougandais.
Au Cameroun, une personne a été tuée mardi à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest anglophone, où des affrontements entre l'armée et des séparatistes ont été signalés selon une source médicale et des témoins. La victime était un combattant séparatiste, a dit un de ses témoins. D'autres ont raconté à l'AFP que des séparatistes armés avaient brandi mardi matin des armes en ville, demandant aux commerçants de fermer boutique. Un mot d'ordre de journée ville morte avait été lancé par les séparatistes jusqu'à mercredi. Les forces de sécurité sont alors intervenues selon ces mêmes témoins.
En Guinée équatoriale, un dirigeant de l'opposition a réclamé hier, en plein dialogue national à Malabo, la démission du gouvernement. Il dénonce la mauvaise foi du président Teodoro Obiangema, qui, selon lui, n'a pas respecté la promesse de libérer les prisonniers politiques. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
C'est au deuxième jour du dialogue national qu'Andrés Essono Ondo, secrétaire général de Convergence pour la démocratie sociale, deuxième parti d'opposition, est sorti de ses gants pour dénoncer l'incapacité des autorités de Malabo à appliquer et à respecter les lois de la République. Le CPDS réclame la démission du gouvernement, pointant du doigt la non-application du décret présidentiel du 4 juillet qui offrait une amnistie totale à des prisonniers politiques, mais qui sont toujours détenus dans les geôles de la prison équato-guinéenne. Ce n'est pas à ce forum de dialogue national que la légitimité du gouvernement sera remise en cause, s'insurge Eugenio Nze Obiang, porte-parole du gouvernement. Ouvert lundi par le président Teodoro Obiang Nguema, cette plateforme de discussion politique devrait permettre aux acteurs politiques de véritablement réfléchir à l'avenir politique du pays. Mais les principaux leaders de l'opposition y sont absents. Les ONG et la communauté internationale ne cessent de s'inquiéter du non-respect des droits de l'homme dans ce pays d'Afrique centrale, malgré les démentis de ses autorités. L'opposition dénonce régulièrement les exactions dont sont victimes ces militants emprisonnés.
L'ONU exprime sa profonde inquiétude quant aux violences qui ont lieu dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Selon l'organisation internationale, au moins 289 ont péri parmi les civils. Eki Abadou.
Dans un communiqué, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU se dit profondément inquiet face à l'amplification des violences perpétrées dans la région de Mopti. Au cours des dernières semaines, l'organe a recensé une vague alarmante de fuites de civils de leur domicile après qu'ils ont été eux-mêmes pris pour cible du fait de leur appartenance à une communauté ou alors en lien avec des attaques mortelles menées contre des membres de leur communauté dans des villages voisins. Selon la même source, ces attaques qui seraient menées par des chasseurs d'ozo et des éléments de milices Dogon s'en prendraient à des membres de la communauté Peul alors qu'elles prétendent lutter contre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La situation dans le centre du Mali conjugue menaces djihadistes et violences ethniques alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle du 29 juillet.
Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, enfoncés dans une guerre civile, doivent signer demain un accord préliminaire de partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et son ex-vice-président, le leader rebelle Riek Machar. Un accord définitif sera signé le 26 juillet. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités du Soudan voisin, où se déroule depuis juin une nouvelle série de pourparlers de paix. L'accord définitif du 26 juillet sera signé en présence du président soudanais Omar al-Bashir et d'autres dirigeants de l'Afrique de l'Est.
Les secouristes de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms ont découvert une femme encore en vie ainsi que deux cadavres sur les restes d'un canot pneumatique mardi au large de la Libye. Ils ont accusé les gardes-côtes libyens qui ont démenti de les avoir abandonnés à leur sort en pleine mer. Le canot était entièrement dégonflé et seules quelques planches flottaient encore à environ 80 miles marins au nord de Tripoli. La femme qui a survécu est une Camerounaise de 40 ans et elle s'appelle Josepha.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain est revenu hier sur ses propos de lundi à Helsinki en Finlande pour dire qu'il accepte les conclusions des agences de renseignement des États-Unis selon lesquelles la Russie s'était ingérée dans la présidentielle de 2016.
La veille, lors d'une conférence de presse à l'issue de son sommet avec Vladimir Poutine, Donald Trump avait accepté les démentis de son homologue russe à ce sujet. Le président américain a cependant ajouté dans une déclaration lue devant la presse mardi à la Maison-Blanche que d'autres personnes pourraient avoir aussi été impliqué dans cette ingérence électorale. L'acceptation publique des démentis de Poutine avait valu à M. Trump les vives critiques de parlementaires démocrates et républicains qui lui reprochaient de prendre le parti d'un dirigeant étranger plutôt que celui de ses propres agences de renseignement. Mais lors d'une réunion hier avec des membres républicains du Congrès, M. Trump a dit qu'après examen de ses remarques à Helsinki, il s'est rendu compte qu'il avait commis un lapsus en oubliant de mettre une particule négative dans une phrase clé. Il a expliqué qu'il avait déclaré « Je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait la Russie qui serait ingérée dans l'élection », alors qu'il voulait dire en fait « Je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne serait pas la Russie ». Cela dit, Donald Trump a répété que, de toute façon, les actions russes n'ont eu aucun impact sur sa victoire face à la démocrate Hillary Clinton et qu'il n'y a eu aucune collusion entre la Russie et sa campagne électorale.
D'autre part, une chambre de mise en accusation fédérale a inculpé hier une jeune femme russe accusée d'être une agente d'un gouvernement étranger en rapport avec un plan secret d'influer sur la politique américaine avant la présidentielle de 2016 en infiltrant des organisations américaines. Maria Butina, qui défend le port d'armes, a des liens étroits avec la NRA, le puissant lobby des armes à feu aux États-Unis, a été arrêté dimanche. On lui reproche d'avoir travaillé comme agent du gouvernement russe aux États-Unis sans en informer le ministère de la Justice, comme l'exige la loi américaine.
L'Iran a déposé une plainte contre les États-Unis devant la Cour internationale de justice au sujet de la décision du président Donald Trump de réimposer les sanctions levées conformément à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Selon la Cour, l'Iran lui demande d'ordonner à Washington de lever ces sanctions. Pour un porte-parole du Département d'État américain, le recours de l'Iran est sans fondement et les États-Unis se défendront vigoureusement devant la Cour internationale de justice.
Au Nicaragua, au moins 2 personnes ont été tuées mardi dans l'assaut lancé par les forces pro-gouvernementales comme Masaya contre Masaya, la ville la plus rebelle du pays, secouée depuis des mois par des manifestations violemment réprimées qui ont fait des centaines de morts. Un millier d'éléments des forces anti-émeutes de paramilitaires fortement armés à bord d'une quarantaine de pick-up sont entrés au petit matin dans Masaya, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Managua, selon les habitants. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Nous sommes le mercredi 18 juillet 2018. C'est la fin de ce journal.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La première édition du Salon international des mines, des carrières et du pétrole du Bénin se déroulera du 19 au 21 juillet à Cotonou sur le thème partenariat public-privé pour le décollage économique du Bénin. Malgré un important potentiel, le Bénin n'est pas encore parvenu à mettre en exploitation industrielle les ressources de son sous-sol du fait du faible niveau des recherches. Le Burkina Faso va lancer sa première crypto-monnaie en août. Cette initiative de monnaie virtuelle a été devancée par d'autres pays, notamment la Tunisie qui a créé le e-dinar en 2000. Le Kenya a lancé en février le Nuru Coin, tandis que l'Afrique du Sud va sortir fin 2018 la monnaie panafricaine Africa Master Coin. Et l'Ucoin, lancé à Abidjan, se veut une monnaie commune en Afrique de l'Ouest. Les autorités sud-africaines ont réagi à la version 2018 de la loi américaine sur la croissance et les opportunités qui prévoit de nouveaux tarifs douaniers et exclut notamment l'acier. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Rob Davis, les nouvelles dispositions de l'AGOA risquent de provoquer l'effondrement du secteur local de l'acier.
À présent, les sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nouvelle journée hier de la Ligue africaine des champions sur le continent.
Oui, la belle victoire à domicile de l'AS Togoport, 1-0 face au Mamelodi Sundowns. Le tout-puissant Mazembe qui s'impose sur le même score, 1-0, face au Mouloudia Club d'Alger. La belle victoire de l'étoile sportive du Sahel en déplacement au Swaziland chez Mbabane, 3-0. Le Zesco United accroché en Zambie à domicile par le Primero de Agosto, 0-0. Match nul également en Guinée, le Oroya face au Wydad de Casablanca, 1-0. Et puis Alali et son nouvel entraîneur Patrice Carteron qui débutent bien une victoire 3-0 à domicile contre les Township Rollers du Botswana. L'Espérance de Tunis qui domine 3-2 Kampala City. Enfin, Sétif qui bat Difa El Jadida du Maroc 2-1.
Et ce mercredi, journée de coupe de la Confédération.
L'Adwana Stars du Ghana qui accueille l'AS Vita Club, la SEC Mimosa face au Raja Casablanca et le Enyimba du Nigeria face au WAC de Williamsville, Gor Mahia du Kenya contre les Young Africans de Tanzanie, le Rayon Sport qui accueille à Kigali l'USM Alger, Al Hilal du Soudan face à l'UD Songo de Mozambique, Berkane du Maroc contre El Masri d'Égypte et puis enfin le Kara de Brazzaville en déplacement sur la pelouse du Djoliba à Bamako.
Mahrez débarque à Manchester City.
Oui, Riyad Mahrez, le champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, a signé un contrat de 5 ans avec Manchester City. L'international algérien devient le joueur africain le plus cher opérant en Europe, devant le Guinéen Naby Keïta qui avait été acheté 60 millions d'euros par Liverpool. Le montant du transfert du Fennec n'a pas encore été été dévoilé, mais selon Leicester, le joueur aurait été vendu pour une somme qui constituerait un record pour le club, alors que plusieurs informations estiment le montant du transfert à 68 millions d'euros.
Le Milan AC devant les tribunaux.
Exclu par l'UEFA de la prochaine Europa League pour avoir violé les règles du fair-play financier, le club va contester cette décision jeudi devant le tribunal arbitral du sport. Depuis le rachat du club lombard par des investisseurs chinois en avril 2017, l'UEFA s'est inquiétée de la stabilité financière du consortium qui a dépensé, tenez-vous bien, quelque 200 millions d'euros l'été dernier pour recruter les nouveaux joueurs du Milan AC.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Sud-Africains et des invités venus du monde entier marquent ce mercredi le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Parmi eux, l'ancien président américain Barack Obama, qui a appelé mardi l'Afrique du Sud et le monde à suivre les pas de Mandela. Compte rendu de Tusso Kumalo et Lionel Gahima.
Barack Obama a décrié ce qu'il considère comme un retour à l'ordre ancien. Pour l'ancien président américain, le racisme prévaut toujours en Afrique du Sud et aux États-Unis malgré les 67 ans qu'a consacré Mandela à la lutte contre ce mal. Notant le recul de la démocratie dans certaines parties du globe, Barack Obama a appelé les leaders mondiaux à suivre l'exemple de Nelson Mandela. Madiba a guidé cette nation par les négociations et péniblement la réconciliation vers les premières élections libres et transparentes. Nous avons tous vu la grâce et la générosité avec lesquelles il a embrassé ses anciens ennemis et la sagesse avec laquelle il a quitté le pouvoir une fois sa mission accomplie. L'ancien chef de l'exécutif américain a déploré le renforcement des inégalités créées par l'émergence de nouveaux riches. Il s'est inquiété des troublants développements dans le monde, allant de l'implication américaine au Moyen-Orient à l'influence croissante de la Russie et de la Chine. Les politiques de la peur, du ressentiment et du repli sur soi se renforcent à un rythme sans précédent, a averti Barack Obama, qui a assuré n'avoir pas pour autant perdu espoir.
I believe in Nelson Mandela's vision.
Je crois en la vision de Mandela. Je crois en la vision de l'égalité et de la justice, de la liberté et d'une démocratie multiraciale bâtue sur l'idée que tous les hommes sont créés égaux et doués par le créateur de certains droits. L'assistance a chaleureusement applaudi Barack Obama. Godfrey Moketsi a voyagé de la province du Limpopo jusqu'à Johannesburg, soit une distance de 400 km pour écouter l'ancien président américain.
Oui, le président Obama a raison. Il a parlé des capitalistes qui s'enrichissent. Ils oublient les pauvres et cela n'est pas le reflet de Mandela. Nous voulons une transformation économique radicale et le président Obama a abordé ces questions.
Les autres orateurs de mardi ont remercié Obama, affirmant qu'il est une grande source d'inspiration pour les jeunes à travers le continent africain.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur le tête-à-tête inédit lundi dernier entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. S'agit-il d'un nouveau chapitre des relations entre Washington et Moscou ? Les deux dirigeants ont-ils intérêt à s'entendre ? Que peut signifier pour le monde, y compris pour l'Afrique, une normalisation des rapports russo-américains ? Mais les points de friction comme l'Ukraine, la Syrie et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine sont-ils des obstacles à cet éventuel rapprochement ? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h10.
En République démocratique du Congo, inquiétude quant au sort de la presse en ligne. Les éditeurs locaux s'inquiètent de la volonté des autorités d'encadrer leurs médias et les réseaux sociaux. Les sites d'information en ligne avaient jusqu'au 14 juillet pour mettre en œuvre un arrêté du ministère de la Communication. La plupart n'ont pas obtempéré dans l'attente d'un rendez-vous avec le ministre. De Kinshasa, le correspondant de VOA Afrique, Patrick Abega, fait le point.
Selon ce décret, au 14 juillet 2018, tous les médias en ligne devaient se faire enregistrer selon la procédure légale fixée par la loi. Mais l'association des médias en ligne a demandé un moratoire afin de rencontrer le ministre Lambert Mende pour fixer les bases de cette réglementation. Ce décret vise en partie l'assainissement du secteur des médias en ligne, qui sont devenus nombreux à l'approche des élections de décembre tant attendues en RDC. À la veille des élections en RDC, il y a prolifération des médias en ligne. Certains donnent place à la partialité et à la propagation des fake news, mais d'autres ont gardé les caractères impartial au nom de la démocratie.
Internet congolais, le web congolais, était essentiellement composé de personnes qui mettaient du contenu contre le pouvoir en place. Des gens qui, essentiellement, étaient basés en Europe. Maintenant, avec des médias qui sont basés ici en RDC, on a la possibilité justement de donner la parole en même temps à l'opposition, en même temps également au pouvoir en place pour qu'ils puissent justement s'exprimer. Et ce n'est que comme ça que l'on peut bâtir notre jeune démocratie.
Aussi, il faut signaler que le média en ligne échappe quelquefois au contrôle de l'État par le fait qu'ils utilisent souvent des nouvelles technologies. Et donc, jusqu'à ce jour, le ministre Lambert Mende n'a toujours pas donné de suite à la demande des responsables et promoteurs des médias en ligne pour qu'enfin ils puissent discuter. Patrick Abega, Kinshasa pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Retour sur la Côte d'Ivoire, où le nouveau parti unifié voulu par le président Alassane Ouattara a été lancé lundi à Abidjan. À 2 ans de l'élection présidentielle, le PDCI, l'un des 2 grands partis de la coalition au pouvoir, a refusé de se joindre au RHDP, mécontent des termes de l'alliance proposée. Dans son discours devant les militants du nouveau parti unifié, le président Ouattara a lancé un appel au rassemblement à Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Pour un éclairage, Bagassi Koura a joint le rédacteur en chef du journal Aujourd'hui, Alexis Tano.
L'Assemblée générale constituée a eu lieu et le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, a été désigné comme le président de ce nouveau parti. Le parti qui est censé regrouper les partis membres du RHDP, l'Assemblée des Soucis, la démocratie et la paix. Il faut retenir que cela se fait aujourd'hui et hors de la présence et la participation de l'un des alliés majeurs, comme le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, dirigé par l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié.
Et pourquoi cela? Ils n'ont pas été associés?
Je pense qu'Henri Konan Bédié lui-même était l'un des précurseurs du parti unifié, mais dans la démarche pour arriver à la fonction du parti unifié, il y a eu quelques divergences quand même.
Et la porte est toujours ouverte pour le PDCI, hein, je veux dire, est-ce qu'il va avoir des négociations?
Oui,
pour...
Oui, la porte, c'est ce qu'on a entendu, qu'il y a des négociations. Le président lui-même, dans son discours, a souhaité que les partis membres de RHDP tapent la configuration d'union pour aller aux élections en 2020 pour qu'il la gagne.
Alors, dans cette sortie du chef de l'État, il a notamment mentionné le fait que lui et Bédié allaient travailler pour transmettre le pouvoir à la nouvelle génération en 2020. Tout le monde a vite compris qu'il ne sera pas candidat. C'est aussi votre lecture?
Absolument. Je crois que M. Ouattara vient de mettre fin au débat qui est devenu quelque peu sempiternel, ou alors d'élever tout équivoque sur sa participation future en tant que candidat à la prochaine élection. En disant que lui et Bédié vont laisser la place à une nouvelle génération en 2020, Ouattara ne dit pas autre chose que ce qu'il avait déjà dit auparavant.
Pourtant, il avait dit que rien ne l'empêchait de postuler un 3e mandat.
Oui. Mais je crois que le président a toujours lui-même compris qu'en un 3e mandat, cela compliquerait plus les choses, peut-être de contribuer à apaiser la situation, étant donné qu'il y a des vérités partout.
Où se situe Guillaume Soro dans tout ça, l'ancien chef de la rébellion et l'ancien premier ministre?
Je crois qu'on avait espéré présenter Guillaume Soro comme candidat, mais lui-même, ouvertement, chaque fois qu'il prend la parole, dit qu'il travaille pour le pouvoir qui est en place. Et 2020 n'est pas encore arrivé. Et du Canada, là où il se trouve, il a appelé M. Ouattara à ne pas rompre le dialogue avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié.
Donc peut-être c'est aussi le leader de cette nouvelle génération dont parle Ouattara.
C'est possible, il en a les capacités. Vous comprenez qu'il a dirigé la rébellion, il a dirigé la moitié de la Côte d'Ivoire pendant 10 années. Il en a les capacités, mais les contingences politiques font que la position de Guillaume Soro n'est pas encore clairement perçue.
C'était Alexis Tano, rédacteur en chef du journal Aujourd'hui.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, malgré la grève qui paralyse le secteur éducatif depuis le 28 mai dernier, les épreuves du baccalauréat ont commencé dans le pays. Toutes séries confondues, ce sont 79 600 candidats qui planchent dans 94 centres répartis dans tout le pays. Deux nouveaux centres ont été créés dans deux départements de la région de Wadi Fira, dans l'Est, où de jeunes Tchadiens et des réfugiés soudanais passent le bac. Notre correspondant André Kotmadjingar s'est rendu sur place.
Il a fallu attendre 58 ans après l'indépendance du Tchad pour que les autorités en charge de l'enseignement supérieur aient créé un centre d'examen à Guérida, département de Dartama, et un autre à Iriba, département de Kobe, deux villes coloniales de la région de Wadi Fira. Là encore, c'est une initiative du SR pour rapprocher les centres d'examen des camps de réfugiés qui ont intégré le système éducatif tchadien depuis 2014. Le préfet intérimaire du département de Dartama, Togui Yoskosugu, se réjouit de la création de ce centre d'examen.
Avant, nos candidats partent composer le baccalauréat vers le centre de Bultune, d'Abéché. Dans les saisons pluvieuses, vous savez qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour le déplacement de ces candidats autochtones et réfugiés. On est reconnaissant envers l'ACER.
Un jeune Tchadien, Haoussou Isaac Capitaine, candidat libre à cet examen, estime que les sujets sont abordables. Mais avec la grève de la plateforme syndicale revendicative qui paralyse le secteur éducatif, les candidats officiels auront des problèmes.
C'est des sujets un peu abordables, mais on ne peut pas le dire aussi pour tout élève. Parce que avec la crise, beaucoup disent qu'ils ont fait 2 mois de cours, 3 mois de cours. Avec les 2 mois de cours, on ne peut pas quand même gérer un examen. Mais nous, les candidats libres, c'est des cours qu'on avait vus au départ.
Cependant, Salmé Abdraman Abdelkirim et Hassan Haroum Sossal, respectivement, candidats autochtones et réfugiés, trouvent le sujet facile.
La première épreuve, c'est abordable. Nous n'avons pas pu finir certains programmes, mais Inch'Allah, la réussite sera 100% agréée.
L'épreuve a été tellement facile et je crois que tous les camarades, ils ont exprimé leur fierté et vraiment, nous n'avons pas de difficultés.
Parlant du partenariat entre l'OSR et le gouvernement tchadien, le chargé de l'éducation pour l'OSR Tchad, Yannick Yanke-Yanke, affirme que le Tchad a beaucoup contribué pour l'éducation des réfugiés qui vivent sur son sol depuis 15 ans.
Le gouvernement est assez réceptif à ce qu'on fait comme travail. Et cela fait maintenant du Tchad l'un des meilleurs parmi les 65 pays qui font partie du patronat mondial pour l'éducation. Et le travail au quotidien, ça se vérifie aujourd'hui avec l'officialisation de 75 écoles primaires, 21 collèges et 12 lycées des camps de réfugiés.
Avec l'appui du SR, 4 nouveaux centres d'examen ont été créés en 2 ans dans les localités les plus reculées. Plus de 1400 réfugiés composent sur l'ensemble du territoire national, dont 58% des filles. La plus jeune des candidats réfugiés cette année a 19 ans et la plus âgée a 44 ans. André Kotmadjingar, Guérida, à l'est du Tchad, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mézéro
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Come on.
sauti usije ukadanganyika kila binti ataka penzi tamu.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges-Léonard Sagnon pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.